Bonjour, je suis Marie Richeux et je vais vous parler d'Officier Radio. Officier Radio, c'est le titre de mon sixième livre, édité chez Sabine Vespizer Éditeur. C'est un roman. J'y projette un double fictionnel qui s'appelle Marie, avec qui je partage pas mal de choses. Une des principales lignes de ce texte est une enquête à propos d'un naufrage, ou plutôt un abordage. Un matin de juin 1979, un imposant cargo de la marine marchande française et un petit pétrolier italien se percutent à la perpendiculaire dans la brume la plus totale. Après le choc, le navire italien brûle et coule, mais la quasi-totalité de l'équipage est sauf, tandis qu'une seule partie du navire français explose et la quasi-totalité de l'équipage meurt ou est portée disparue. Sur ce navire, le frère de mon père occupait le poste d'officier radio. J'ai toujours eu connaissance de ce drame, mais il y avait toujours beaucoup de mystères qui planaient autour. Et ma narratrice se lance donc dans l'enquête, va visiter les archives, mène des entretiens, discute avec d'anciens marins, des membres de la famille, une veuve d'un autre naufrage. La deuxième ligne de force de ce roman, c'est une méditation littéraire et intime sur le thème de la disparition. Dans les histoires de naufrage, la question des corps disparus, non identifiables, non rendus aux familles, sans sépulture nominative, c'est évidemment très très important comme motif. Et partant de là, je vois comment ça résonne ce mot disparu dans différents aspects de ma vie et dans mes lectures en convoquant par exemple Pérec ou Mendelssohn. La troisième ligne de force, c'est un portrait en creux du personnage du père. C'est une histoire condensée de la Bretagne, de l'exode rural et du tournant des années 60, l'histoire d'une petite exploitation agricole, mais aussi d'un petit club de foot de campagne qui a toute son importance. C'est un roman qui est vraiment tissé de voix, un matériau qui est commun à mon métier, puisque je fais de la radio tous les jours depuis 15 ans, et à ma pratique de l'écriture, puisque c'est vraiment ça que je cherche à rendre, des voix, la mienne et ceux des autres. Je crois enfin que c'est un roman pour se réconcilier avec la brume, accepter de ne pas tout savoir de ces drames qui ont percuté les générations qui nous ont précédés et qui font vibrer souvent de manière mystérieuse un petit peu de nos vies. Je vais vous lire le premier chapitre de Officier Radio. Il s'appelle Fin de partie. C'est un jeu breton. On envoie des palets sur une planche de bois pour se rapprocher du maître. Plus on s'approche, plus on gagne de points. La planche de bois est marquée d'autant de cicatrices qu'il y a eu de lancers, sorte de coups d'ongles portés sur une peau tendre. La planche garde la mémoire de ça. Ensuite, on peut relire la partie. Qui a joué où et combien de fois? Les palets sont lourds, il faut toujours les jeter par deux. Mon père et Loïc sont accroupis à ramasser les disques de métal sombre. Ils parlent, leur visage baigné de lumière. Le pré est superbe, tout juste sorti d'août. Les pruniers ont donné, les pommiers aussi, on attend les noix. Leurs deux visages penchés l'un vers l'autre se ressemblent. Ils ont un peu moins de 20 ans d'écart. Les mêmes peaux du dehors, tout juste sorties d'août, elles aussi. On va les voir, je dis. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je ne termine pas ma partie à moi? Dans la même lumière sublime de 21h, les cheveux de Georges parfaitement accordés à l'herbe un peu séchée derrière. Pourquoi je ne reste pas à jouer ma partie? On marche vers eux, ils parlent. Leur conversation est une forme flottante et lumineuse. Nous avançons vers cette forme. Elle est attirante. Elle brûle au loin. On est tout près maintenant. Hop, Loïc, mon père, Georges et moi. On forme un cercle autour du jeu. Rien ne bougera ou presque jusqu'au dénouement de la scène. Mon père, Loïc, Georges et moi, en cercle. Loïc raconte un match de foot. Il raconte une action précise. Remonte le terrain. Balle au pied, dribble, dépasse la défense. Il est habile. C'est magnifique, quelle incroyable action, quelle course, c'est superbe. C'est dimanche après-midi, l'exaltation est totale. Mon père sourit. Quand tu fais un match comme ça, dit Loïc, c'est extraordinaire. Le matin, en classe, enfin, je me souviens de cette joie d'avoir si bien joué. Le lendemain, tu planes, et puis personne ne s'y attendait vraiment. C'était dingue comme match. Tu t'en souviens? Loïc est saoul. Mon père le regarde tendrement. Georges se tait. Je crois que Georges va se taire jusqu'à la fin de la scène. Tu ne te souviens pas, Jean? Mais c'était fou. Je crois sentir la course encore dans mes jambes. Quelle joie, putain. Loïc redit le nom des deux équipes, le terrain de foot du dimanche, le bord du terrain, peut-être les familles des gamins d'un autre village. Voilà dans quoi on arrive. Un match entre deux équipes de deux petits villages des Côtes d'Armor dans les années 80. Je dis les années 80 sans calculer vraiment, mais ça doit être ça. Charlot est mort en 1979. J'ai longtemps cru que Loïc avait 11 ans à la mort de son père. On m'a toujours dit qu'il avait 11 ans à la mort de son père. La suite me démontrera que Loïc n'avait pas 11 ans. La suite me démontrera que l'on raconte des histoires à la place d'autres histoires pour ne pas en raconter certaines. Mais disons les années 80. Moi, j'ai noté 11 ans. J'ai noté cet âge-là, dans ma tête, pendant longtemps. J'ai cru que Loïc avait 11 ans quand son père est mort. À 11 ans, j'ai eu mes premières règles. Cela m'a empêché de respirer certaines nuits. Je croyais mourir. Je croyais que l'air ne rentrerait plus jamais dans ma gorge devenue porte fermée. Je me souviens de moi, assis sur le matelas, suffoquant, tentant de respirer comme mon corps ne le pouvait plus. Le noir de la nuit, oui, quand je pense 11 ans, je pense ça. Un peu de sang dans ma culotte, une salopette en jean, le tout roulé en boule, en secret bien entendu, dans la machine à laver, moi suffoquant la nuit, croyant bientôt mourir, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait seulement expirer. Juste expirer. Expirer de l'air parce que ça sauve. Mais c'est vraiment une autre histoire, non? Une fillette qui a peur de mourir parce qu'elle suffoque, c'est autre chose, non? Quelqu'un qui pense être asphyxié à 3h du matin dans une banlieue parisienne à 11 ans, c'est tout à fait autre chose. Rien à voir avec un naufrage. Moi, je croyais, Loïc avait 11 ans quand son père est mort dans un naufrage, j'avais 11 ans l'année de mes premières règles, découvrant le nom sans nom de l'angoisse. Mais bon, tout ça va bouger. Loïc demande une nouvelle fois à mon père s'il se souvient du match. Tu te souviens pas, Jean? C'était fou. Mon père redit doucement qu'il ne se souvient pas. Mais il abonde dans son sens que Loïc était un super joueur, l'un des meilleurs de sa génération, il n'y a pas à dire. De toute façon, dans ce club, il y avait des gamins qui auraient pu être pros. Ça jouait super bien. Georges et moi, nous sourions. En fait, tout le monde sourit. C'est une heure bénie. Le soleil est si généreux, on dirait qu'il nous aime. La musique monte dans le champ, on apporte un nouveau fût de bière fraîche. Le sourire béat du fils tout juste marié, la fumée des grands barbecues pour les galettes saucisses. À cette heure-là, quand on revient du cap, à l'envers, on arrive à la fosse. Tout est doré, orange, vert foncé, violet, et puis d'un coup, la plage des Grèves d'en bas ouvre la vue. C'est ahurissant de beauté, les graminées sur les dunes, les trois grands rochers de la ville-main. Un jour, je m'étais arrêtée à la cabine téléphonique des Grèves. Elle était sur le parking caillouteux, au croisement de la route des plages et de celle qui remonte vers le moulin. Je venais de faire cette route, à vélo ou à pied. J'avais appelé à la maison, cette même heure, fin d'été, heure de soleil béni. J'étais tombée sur mon père, qui était toujours entre inquiet et curieux de recevoir un coup de fil de nous. J'avais dit « Papa, c'est tellement beau. C'est beau à en pleurer. Comme c'est beau, papa. » Je l'avais juste appelé pour le paysage. Il avait fait comme d'habitude devant l'effusion. Il avait accueilli en calmant le jeu. On calme le jeu. Ça, c'est bien une expression de mon père. J'avais raccroché sans que cela diminue mon exaltation. J'avais repris le chemin, entièrement dévoué à la puissance de cet endroit. Je n'oublierai jamais ce retour. Loïc continue. « Tu te souviens, Jean ? Je t'attendais toute la semaine. Tu arrivais le vendredi et je ne te quittais plus du week-end. Tu m'emmenais à l'entraînement de tennis et à tes matchs, l'école de foot, les matchs encore, les fêtes. Tu te souviens ? Oui, bien sûr, je me souviens. Je t'attendais toute la semaine, répète Loïc de plus en plus ému. Tu me sauvais. Je regarde Georges, je regarde mon père, je regarde Loïc qui continue. Tu me sauvais, ça me sauvait que tu viennes me chercher le vendredi. C'était mon plaisir absolu toutes ces virées avec toi. Si t'avais pas été là, j'aurais été fichu. Loïc a des larmes dans les mots. Fichu, comment j'aurais fait sans toi? Tu te souviens quand t'es venu me chercher ce soir-là avec ta vieille Renault 15 pourrie orange? Tu m'as pris dans ta voiture, on a roulé jusqu'ici, c'était juste là, dans le chemin, là. T'as arrêté la voiture, on a parlé de tout, de rien. On a parlé de foot, tu te souviens? Moi, ça m'a sauvé ce soir-là, tu te rends compte? Je sais pas si je me rends compte, répond mon père. Mais Jean, il n'y avait personne pour faire ça. Dans ta voiture, Loïc répète, on a parlé de foot, on a parlé d'autre chose. Tu m'as dit que ça irait, qu'on allait y arriver, que j'allais y arriver. Tu te souviens de ce soir-là? Comment ne pas oublier, répond mon père. Comment ne pas oublier, répète-t-il. C'était mon frère le plus proche. C'est pas pareil qu'un père, mais oui, bien sûr, ce soir-là, je m'en souviens. Je regarde Georges. Le cercle de tout à l'heure n'a pas bougé. Loïc, Jean, Georges et moi. La fête continue de s'éparpiller tout autour, le soleil baisse. Les corps commencent à danser, la musique a monté. Mon père a dit « Comment ne pas oublier ?» et il va le répéter presque une dizaine de fois. Je regarde Georges en aparté, je dis la phrase sans le son en exagérant les mouvements avec mes lèvres. Je réalise sur le coup que mon père dit l'inverse de ce qu'il croit dire. Comment ne pas oublier? Ça veut dire qu'il a été obligé d'oublier un peu? Loïc est en larmes. La scène se poursuit, la lumière tombe tout à fait et Loïc tombe dans les bras de mon père. Grosse larme, gros chagrin d'enfant secouant le corps de cet homme de bientôt 60 ans. Mon père caressant son dos comme il le fait pour moi, mon frère, mes filles, comme il le fait toujours. Loïc sanglote. Il lui dit son amour, s'adresse enfin à moi. Ton père, ça a été un père pour moi. Loïc me serre dans ses bras. Ton père, c'est un peu mon père, dit Loïc, saoul, ému et beau. Comment ne pas oublier, répète mon père. Et moi j'entends, comment faire autrement qu'oublier un peu? Mais j'entends aussi, comment faire pour ne pas oublier? Quoi faire pour ne pas oublier? Comment ne pas oublier?